Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous le monde. Aujourd'hui, Bagassi Corée, je suis Ruben Dorsil ici à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique, les grands points de l'actualité.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Les présidents Barack Obama et Raúl Castro annoncent un rapprochement historique dans les relations entre les États-Unis et Cuba.
Et nous aurons l'essentiel de la déclaration de M. Obama et les points de vue d'un analyste à Miami, bastion de la communauté cubano-américaine.
Ebola et insécurité alimentaire, l'ONU avertit que plus de 1 million de personnes sont menacées dans les pays les plus touchés par l'épidémie.
Malgré la menace d'un veto américain, les Palestiniens comptent proposer au Conseil de sécurité une résolution réclamant la fin de l'occupation israélienne.
RDC, début du rapatriement des ex-rebelles du M23.
Il y a une tentative de manipulation de ces jeunes gens. Quand ils sont congolais, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner dans leur pays. Je ne dis pas le contraire.
Et nous aurons bien sûr nos pages économiques, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal.
Le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont confirmé aujourd'hui ce que les observateurs considèrent comme un rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. Cet important développement intervient après la libération d'un contractuel américain, Alan Gross, détenu depuis 5 ans à La Havane. Lionel Gaïma fait le point.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years.
Prenant la parole ce mercredi à la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a rappelé que les mesures rigides prises à l'encontre de Cuba, depuis plus d'un demi-siècle, n'ont pas fondamentalement changé les réalités politiques sur l'île. L'embargo n'a tout simplement pas eu l'effet escompté et Barack Obama veut normaliser les relations américano-cubaines.
I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961.
Le président Obama dit qu'il a demandé au secrétaire d'État John Kerry d'entamer immédiatement des discussions sur la normalisation des relations diplomatiques avec La Havane. Il y aura également une révision quant à la désignation de Cuba comme une nation terroriste. Les voyages entre les deux pays seront désormais plus faciles. Et M. Obama souhaite voir une coopération dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le président américain a toutefois souligné que son gouvernement n'abandonnera pas ses positions sur les questions de démocratie et de droits humains, deux points soulevés par les critiques de cette normalisation. Alors que Barack Obama annonçait ce changement dans la politique américaine vis-à-vis de l'unique île communiste de la Caraïbe, son homologue Raúl Castro s'adressait au peuple cubain, disant, entre autres, qu'il était temps de laisser derrière nous l'héritage de la colonisation et du communisme. M. Obama et Castro s'étaient entretenus par téléphone mardi, mais Fidel Castro, le leader emblématique de la révolution cubaine et grand frère de l'actuel président, n'a pas pris part aux discussions, a déclaré un responsable cité par l'AFP. A signalé que le pape François jouait un rôle crucial dans le rapprochement entre les deux pays, ce pour lequel les deux leaders l'ont remercié. Les États-Unis et Cuba, qui séparaient seulement par les 150 km du détroit de Floride, n'ont plus de relations diplomatiques officielles depuis 1961. Vivement critiqué à Cuba, l'embargo américain maintenu depuis 1962 est condamné chaque année aux Nations Unies à une écrasante majorité.
Voilà, plus d'un million de personnes pourraient faire face à l'insécurité alimentaire en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone d'ici mars 2015. Dû à l'épidémie d'Ebola, ont averti des responsables de la FAO dans une déclaration publiée ce mercredi. Ces responsables citent la fermeture des frontières, les mesures de quarantaine, l'interdiction de chasser et d'autres restrictions comme étant des facteurs empêchant l'accès aux sources alimentaires. Par ailleurs, les autorités sierra-léonaises ont lancé aujourd'hui une campagne de porte-à-porte à la recherche de personnes atteintes d'Ebola.
Un millier d'ex-combattants du M23 ayant fui mardi les baraquements ougandais où ils étaient cantonnés depuis novembre 2013 se trouvent dans un camp de réfugiés proche. Information émanant de l'AFP qui cite l'armée ougandaise. Ces ex-rebelles se sont évanouis mardi dans la nature après s'être opposés à une opération de rapatriement vers la RDC, opération lancée par l'armée ougandaise dans le camp de Bianga, à environ 300 km au sud-ouest de Kampala, où quelques 1 300 d'entre eux étaient cantonnés.
Côte d'Ivoire. Crise au sein du principal parti d'opposition. La justice a débouté aujourd'hui les pro-Gbagbo représentés par Dano Diédié dans le procès contre le président actuel du Front populaire ivoirien, Afi Nguessan. Les pro-Gbagbo tentaient de faire annuler le report du 4e congrès ordinaire décidé la semaine dernière par la justice Jean-Roger Bion.
La justice ivoirienne reste sur sa décision concernant le congrès du FPI, à savoir que celui-ci reste reporté jusqu'à nouvel ordre. Le tribunal avait ordonné la semaine dernière le report à une date ultérieure de ce congrès à la demande du président du parti, Pascal Afi Nguessan. Dano Diédié est président de ce 4e congrès ordinaire, initialement prévu du 11 au 14 décembre dernier, a déposé un recours, mais en vain. Le sujet déchaîne les passions au sein du Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo, actuellement en détention à La Haye, et Pascal Afi Nguessan brigue la présidence de l'ancien parti au pouvoir. Depuis la validation des candidatures de messieurs Gbagbo et Afi par le comité de contrôle du parti, la tension est montée d'un cran entre les deux camps. Le bras de fer judiciaire est pour le moment en faveur des pro-Afi, mais nul ne peut prédire jusqu'où iront les deux tendances politiques du principal parti d'opposition ivoirien. Les observateurs craignent une implosion du FPI.
Un nouveau Premier ministre a été nommé aujourd'hui en Somalie. Omar Abdirachid Ali Charmarke avait déjà occupé cette fonction en 2009-2010. Il est le troisième Premier ministre en 2 ans dans ce pays toujours en proie aux insurgés islamistes Shebab. Cette nomination doit être approuvée par le Parlement somalien.
La ministre des Finances du Nigeria a revu aujourd'hui donc à la baisse les prévisions de croissance pour 2015 et proposé une réduction des dépenses. La première économie africaine tentant de faire face à la chute mondiale des prix du pétrole.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Pakistan, les autorités prennent des mesures pour répondre à l'attaque perpétrée mardi par les talibans contre une école de Peshawar, alors que la nation observe un deuil national de 3 jours pour les 132 enfants et membres du personnel tués dans cette tragédie. Michel Joseph.
Le Premier ministre Nawaz Sharif a approuvé aujourd'hui la levée du moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. Ce moratoire était en vigueur depuis 2008. Monsieur Sharif s'est également engagé lors d'une conférence de presse à Peshawar à poursuivre l'offensive contre les militants islamistes dans la région tribale du Nord-Ouest, près de la frontière afghane. Le Premier ministre a déclaré en substance que son gouvernement continuera à les traquer tant qu'il y aura un seul terroriste sur le sol pakistanais. Il s'est félicité de la réunion qui a permis aux différents partis politiques de se retrouver derrière le même programme de lutte contre le terrorisme. Les journalistes qui ont pu entrer dans l'école attaquée ont vu des murs criblés de balles et le sol souillé de sang. Les talibans pakistanais disent que cette attaque était en représailles à l'offensive de l'armée pakistanaise contre eux. A signaler que les chefs de l'armée et des services de renseignement pakistanais ont rencontré aujourd'hui à Kaboul le président afghan Ashraf Ghani et le général américain John Campbell, commandant des forces de l'OTAN en Afghanistan.
Les Palestiniens comptent proposer ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution réclamant la fin de l'occupation israélienne. Les États-Unis qui les menacent d'un veto, Idriss Fall.
Nimr Hamad, conseiller du président Mahmoud Abbas, a confirmé que ce projet qui sera déposé devant le Conseil de sécurité incorpore des modifications suggérées par la France, sans préciser lesquelles. Contrairement à la proposition jordanienne qui donnait 6 mois, Paris préconise un délai de 2 ans pour boucler de nouvelles négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. Et il faudra quelques jours avant un éventuel vote. Un veto américain est quasi certain. John Kerry a toujours réitéré qu'un accord de paix ne peut résulter d'une initiative unilatérale à l'ONU. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté tout ultimatum et a accusé les Européens d'avoir pris fait et cause pour les Palestiniens. Comme pour lui apporter la réplique, le tribunal de l'Union européenne retire le Hamas de la liste des organisations terroristes et le Parlement européen apporte son soutien de principe à la reconnaissance de l'État palestinien.
La première du film The Interview a été annulée ce mercredi suite à de nouvelles menaces terroristes proférées par les hackers de Sony Pictures. Cette parodie hollywoodienne qui porte la griffe des acteurs Seth Rogen et James Franco raconte l'histoire de 2 médiocres journalistes américains chargés d'assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. Jacques Aristide.
ce qui apparaissait comme une comédie burlesque au départ prend désormais des proportions alarmantes. Les pirates informatiques, se réclamant du groupe Les Gardiens de la Paix, ont menacé d'attentats les salles de cinéma qui projetteraient le long métrage, faisant allusion à l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001. Par mesure de sécurité, Landmark Theatres a décidé d'annuler l'avant-première à New York. De son côté, le département américain de la sécurité intérieure a indiqué que la crédibilité de ces déclarations était à l'étude, mais que pour l'heure, il n'y avait pas de données prouvant un complot actif contre des salles de cinéma sur le territoire des États-Unis. Les mêmes hackers avaient affirmé avoir piraté le système informatique de Sony Pictures qui produit The Interview. La Corée du Nord a nié être à l'origine de l'attaque, mais a qualifié d'acte légitime de partisans et de sympathisants de Pyongyang. Les nouvelles menaces interviennent alors que des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont rendu hommage ce mercredi à Kim Jong-il à l'occasion du 3e anniversaire de sa mort, après avoir dirigé le pays d'une main de fer pendant 17 ans. Et c'est son fils Kim Jong-un qui a pris la relève depuis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco aujourd'hui avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Les chutes du cours du pétrole dans le monde se font déjà sentir au Nigeria.
Ewin Gossi Okonjo-Iweala, la ministre des Finances, a revu à la baisse les prévisions de croissance pour 2015 pour la première économie africaine. La croissance devrait atteindre 5,5% tout de même au lieu de 6,35%. Les dépenses publiques ont aussi été revues à la baisse.
Bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne, le géant pétrolier Exxon va investir dans le pays.
Le groupe américain a signé deux contrats de partage de production avec la Côte d'Ivoire pour l'exploration et l'exploitation de deux blocs pétroliers en eau profonde. Environ 400 millions de dollars d'investissement sont prévus à partir de 2015. Cette annonce marque le retour d'ExxonMobil dans le bassin ivoirien 32 ans après sa sortie.
Marché agricole, la Banque mondiale prête 100 millions de dollars au Cameroun.
L'accord de financement contribuera au soutien des filières de maïs, manioc et sorgho durant les 5 prochaines années. Il permettra surtout à 120 000 petits producteurs camerounais d'approvisionner des groupes agro-industriels tels que Nestlé et Guinness.
Et parlons de la croissance de l'économie au Rwanda.
7,8%, c'est la croissance de l'économie rwandaise au troisième trimestre par rapport à l'année dernière à la même période, chiffre publié il y a quelques minutes par l'Institut rwandais de la statistique.
Voilà pour la Minute Éco de ce mercredi. Merci Nicolas Pinot.
Voilà, c'est l'heure des sports sur VOA Afrique. On retrouve Timothée Denon-Maheureux. Bonsoir.
Bonsoir Bagassi.
Alors on parle de cette nouvelle crise au sein de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, avec cette démission aujourd'hui de Michael Garcia.
Eh oui, Bagassi, cet ancien procureur fédéral américain, était chargé d'enquêter sur l'attribution des mondiaux 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Dans son rapport remis le 5 septembre, il avait fait état des problèmes sérieux et de grande envergure dans ce processus. Garcia avait alors demandé la publication du rapport, mais s'était heurté au refus du président de la commission de jugement, Hans-Joachim Eckert.
Et ce soir encore, on reparle des sanctions contre le Maroc qui avait demandé le report de la CAN en raison de l'épidémie d'Ebola.
Selon le journal algérien El Watan, la CAF pourrait se montrer plus clémente que prévu et n'infliger une suspension que de 2 ans au Maroc qui avait refusé d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2015 aux dates prévues. Ces sanctions ne devraient pas intervenir avant la fin du Mondial 2015.
Et on reste toujours au Maroc avec cette deuxième demi-finale du Mondial des clubs.
Et oui, Bagassi, les Argentins de San Lorenzo font face depuis 13 minutes aux Néo-Zélandais d'Auckland, score 0-0. Dans le match pour la 5e place, Sydney et le Sétif ont fait match nul, 2-2. Les tirs au but, ils sont allés au tir au but où les Algériens se sont montrés les plus adroits.
Le vainqueur qui rencontrera le Real en finale samedi.
James Rodriguez, le milieu offensif colombien du Real Madrid, a participé à l'entraînement collectif ce mercredi au Maroc, au lendemain de la qualification du champion d'Europe pour la finale du Mondial des clubs.
Et puis on termine par la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Memphis a infligé à Golden State sa première défaite en 17 matchs et en plus d'un mois en s'imposant 105-98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcy, les Bagassi courant en votre compagnie pour cette édition du 17 décembre. Place au dossier du jour. Historique donc, Washington et La Havane vont reprendre leurs relations diplomatiques avec l'ouverture prochaine d'ambassades dans les deux pays. La question de la levée de l'embargo américain sur Cuba reste en suspens puisqu'il faudra l'aval du Congrès. Les discours de Barack Obama et de Raúl Castro, les deux présidents, ont été prononcés en simultané aux États-Unis et à Cuba. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint Maxime Larrivé, chercheur en relations internationales à l'Université de Miami.
L'annonce, je pense qu'elle devait arriver un jour ou l'autre, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu un changement qui est apparu à partir de l'arrivée de président Obama, hein, et à peu près en 2008. Et puis c'est vrai qu'à partir de 2008 aussi, il y a un changement des relations entre l'Union européenne et Cuba. Et comme il l'a dit dans son discours, président Obama, les États-Unis sont les seuls à avoir un embargo avec Cuba quand la plupart des pays du monde ont des relations bilatérales avec Cuba. Donc du coup, c'est vrai que d'un point de vue domestique, l'arrivée de président Obama et de son équipe a peut-être amené à un changement des relations, comme on l'a vu, mais aussi au niveau international, où il y a eu un changement des relations entre, en tout cas, l'Union européenne, les 28 membres de l'Union européenne et Cuba. Donc ça, c'est vrai que les deux ont vraiment joué l'un et l'autre.
Et concernant l'embargo, qui est évidemment une sanction qui a été imposée depuis 1961 par les Américains, pensez-vous que le président Obama aura la majorité au Congrès pour pouvoir lever ces sanctions?
Ça, c'est très très dur hein, de prévoir, surtout avec l'arrivée du nouveau Congrès au printemps 2015. C'est pas sûr, hein, franchement, de voir ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu quand même un accord au niveau du Comité des Affaires étrangères du Congrès, où il y a eu un accord bipartisan pour la libération de l'otage, enfin du prisonnier américain, et aussi, comme il parlait, de l'agent secret au Cuba en échange des trois prisonniers en Floride. Donc c'est vrai qu'il y a eu un accord bipartisan, mais c'est pas forcément très sûr hein, quand on voit le sénateur de Floride, républicain Marco Rubio, qui lui déjà est très actif en essayant de limiter ou en essayant de vraiment critiquer la politique d'Obama. Et donc lui, il va sûrement monter en puissance et essayer de faire en sorte que le Congrès ne change pas sa position.
Le poids politique des Américains d'origine cubaine est-il toujours aussi important en Floride?
Il est extrêmement important, mais il est en train de changer. Il y a un changement au niveau des générations qui est en train de changer vraiment la vision des relations avec Cuba. Donc là, je regardais des sondages qui ont été faits cet été. 68% des personnes, donc cuba-américains, étaient en faveur de restaurer les relations diplomatiques avec Cuba. Au sein de ces 68%, donc les personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales, donc principalement des personnes plus âgées, eux, ils étaient à 51% contre, en fait, la fin de l'embargo. Et 90%, par contre, eux, voulaient vraiment restaurer vraiment les relations diplomatiques. Et en tout cas, 71% disaient que l'embargo ne marchait pas, ou en tout cas n'avait pas forcément des effets très positifs. Donc ça, c'était cet été 2014, fait à l'Université de Floride, par l'Université de Floride. Et puis on l'a bien vu hein, avec les dernières élections en Floride, que les Cubains américains ne votent plus forcément autant pour le Parti républicain qu'avant. Donc il y a vraiment un changement qui a lieu en Floride.
Le chercheur Maxime Larrivé, joint à Miami.
Et puis, Chérubin, il faut noter ses réactions à travers le monde. Les présidents d'Amérique latine faisant partie du Mercosur ont salué l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, qualifiée, je cite, de rectification historique par le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.
De son côté, le président d'Uruguay, l'ex-guerriero José Pepe Mujica, a lui aussi qualifié d'historique la nouvelle. Et le ministre des Affaires étrangères allemand, Frank-Walter Steinmeier, a salué l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, y voyant une très bonne nouvelle en ces temps riches en conflits.
Voilà, en Guinée, les autorités de la capitale ont interdit l'utilisation des pétards et des feux d'artifice pendant les fêtes de fin d'année. Le gouverneur de Conakry a aussi déclaré qu'à cause de l'état d'urgence sanitaire, Noël sera fêté dans les églises et dans les maisons. Écoutons le reportage de Zakaria Kamara.
Boubacar, vendeur à la criée, tient quelques pétards et passe entre les véhicules devant Madina, le grand marché de Conakry.
Il y a certains qui vont penser que c'est pour les chrétiens seulement. Ce n'est pas pour les chrétiens. Avec les yeux de lumière qui brillent, c'est très joli.
Comme Boubacar, Ibrahim tente à chaque fois d'échapper à la vigilance des policiers, des agents chargés de faire respecter l'interdiction d'utiliser les gadgets qui donnent des bruits assourdissants. C'est une décision du gouverneur de la ville de Conakry pour, dit-il, éviter des contaminations au virus Ebola. Mais pour l'abbé Mathieu Loi, les chrétiens doivent fêter Noël comme ils en ont le droit.
Ebola ou pas, Noël doit être fêté puisque c'est une grande fête. Et c'est vrai que nous allons fêter Noël dans un contexte un peu, j'allais dire, lamentable avec des fièvres hémorragiques à virus Ebola. Mais quoi qu'on fasse, si nous avons la foi, c'est qu'on peut fêter Noël et dans la prière, dans le cœur, pour demander au Seigneur justement, l'enfant Jésus parmi nous, de nous aider à éradiquer ce mal.
Les autorités de la capitale ont maintenu la fermeture des plages. Les manifestations à haute intensité de rue dans les lieux publics sont suspendues. Noël sera fêté dans les églises et dans les familles, mais dans la sobriété, a précisé le gouverneur de la ville, qui semble trouver quelques défenseurs au niveau des jeunes.
Moi, la seule chance que je vois pour fêter Noël, c'est de fêter en famille.
Avec ce virus Ebola qui est en train de ravager la Guinée actuellement, on a fermé les plages. Je préfère rester en famille, fêter ça entre parents.
Fêter entre parents dans la sobriété à cause d'Ebola, l'argument ne semble pas convaincre Jean-Paul.
Si on veut la fêter en discrétion, on n'a qu'à dire maintenant, personne ne va à Madina. Ou bien personne ne monte en Mangbana. Personne ne monte en taxi. Parce que là-bas, il y a des frottements.
Conakry, Zakaria Kamara pour La Voix de l'Amérique.
Fin hier à Dakar, au Sénégal, du premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Les présidents du Mali, du Sénégal et du Tchad ont estimé que le travail n'est pas achevé en Libye et qu'il faudrait que ceux qui l'ont entamé puissent aider à la terminer. Le Mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz a regretté que certains pays paient des rançons aux preneurs d'otages. Idriss Fall a joint à Dakar Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et organisateur de ce forum.
Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité avait précisément comme objectif d'organiser ce qu'on a appelé une discussion informelle, c'est-à-dire une rencontre qui n'est pas contraignante et qui n'a pas à obéir à certaines règles. Donc les chefs d'État, en fait, ils étaient quatre à la cérémonie de clôture avec le président Obasanjo. Ils ont discuté librement avec le ministre français Jean-Yves Le Drian, et le président de la Croix-Rouge internationale. Et la question de la Libye, effectivement, a été posée. Et c'est important qu'elle soit posée comme une question centrale dans la crise du Sahel, que la guerre de Libye a engagé l'OTAN contre les forces de Kadhafi et que effectivement il n'y a pas eu de suivi. Une fois Kadhafi disparu, apparemment, la mission a été atteinte, selon le président Déby. Et il estime que c'était pas du tout ça. C'était pas peut-être la meilleure démarche. Et l'autre angle sous lequel il l'a posé, c'est l'arsenal libyen, l'arsenal militaire libyen, totalement sans contrôle, libre où Boko Haram peut venir s'approvisionner, beaucoup de forces négatives peuvent venir s'approvisionner, et que donc le Sahel est devenu une poudrière précisément à cause de cela. Et il posera la question de savoir si c'était ça la bonne démarche. Et les autres chefs d'État l'ont soutenu. Le président Aziz a soulevé l'autre problème, la question des otages, des rançons, etc. C'est vraiment, je crois, un objectif atteint pour le forum, parce qu'on voulait ce genre de discussion, non pas nous lancer dans des critiques virulentes les uns contre les autres, mais identifier les problèmes dans leur gravité et ensemble essayer de trouver des solutions.
Mais la menace de la poudrière libyenne est toujours là.
Elle est là et elle semble même s'aggraver, parce que maintenant, le sud libyen est devenu un sanctuaire des forces négatives, des terroristes, des trafiquants et... La Libye est un pays immense, plusieurs milliers de kilomètres carrés, totalement sans contrôle, sans État. Et là où il y a l'État est divisé, fragilisé par les différentes factions surtout les deux grandes factions rivales qui sont en lutte, les djihadistes contre les forces du général Haftar. Alors, la Libye, effectivement, grand problème du Sahel et du Sahara. Et ses conséquences immédiates, on a vu d'abord, c'était le Mali. Et là, maintenant, Boko Haram, la déstabilisation du nord Nigeria, du nord Cameroun. Vraiment, il est question pour l'Afrique d'envisager une riposte, organiser une riposte collective. C'est ça notre vision. Aucun pays individuellement pris ne peut régler tout seul ses problèmes. Et le président du Tchad a ajouté que les forces internationales qui étaient intervenues en Libye ont une obligation, pour ainsi dire, morale, d'intervenir à nouveau pour contribuer à détruire ces forces négatives, ces forces terroristes. Ils sont même venus de partout du monde pour se retrouver en Libye et qu'il a avoué que seuls les États africains ou les États voisins n'étaient pas en mesure d'aller en Libye et de régler ce problème clair. Et je crois que le message a été entendu.
Voilà, M. Cheikh Tidiane Gadio, organisateur du premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique.
C'est presque la fin de cette édition. Le dernier mot sera, comme d'habitude, à Roger Montou, notre pilote, ou Monsieur Musique, comme j'aime à l'appeler. Alors, tu nous réserves quoi?
Salut Gabi, salut Bagassi. Le single Jealous de Nick Jonas cartonne grâce à ses photos hot. Jouer la carte du sexy peut donner un petit coup de pouce hein, dans une carrière. On l'écoute ce soir dans Jealous. Nick Jonas est en train de se rendre compte vraiment que jouer à la carte sexy peut donner un petit coup de pouce, hein, comme je l'ai dit tantôt. Suite à un photoshoot torride pour le magazine Flaunt, l'ex Jonas Brothers a vu son single Jealous s'envoler sur iTunes grâce à une promotion. Mais ça aide Gabi hein, de se faire de belles photos. Voilà, c'était Nick Jonas dans Jealous.
N'oubliez pas, Roger Montou, chaque soir à 20h, temps universel, dans le RM Show. Sachez-le bien, le RM Show, ce n'est pas une émission, c'est toute une expérience, Bagassi.
Voilà, c'est ainsi donc que s'achève le monde aujourd'hui à la présentation. C'était moi-même, Bagassi Kouraïch, Urbain Dorsil. Rendez-vous demain encore sur La Voix de l'Amérique.